Bonjour, vous écoutez À Propos, le podcast d'actualité du journal Le Soir.
Tous les jours, on vous propose des analyses, des explications et des décryptages. C'est notre oreille sur l'actualité.
Aujourd'hui, on revient en détail sur l'affaire de corruption qui a éclaboussé le Parlement européen, sur ses soupçons d'ingérence de la part du Qatar et du Maroc.
On reviendra sur les derniers éléments de l'enquête, mais aussi sur les leçons que l'on peut déjà tirer de cette histoire.
Nous sommes le vendredi 23 décembre, je m'appelle Pierre Fagnard.
Je m'appelle Sandrine Puissant. À propos, voici l'actualité, comme vous l'entendez.
Grand angle.
Des députés européens perquisitionnés, une vice-présidente du Parlement en prison, des montagnes de billets collectés, le Parlement européen est plongé dans une séquence folle depuis la mi-décembre, un véritable scandale de corruption avec le Qatar et le Maroc à la manœuvre.
Le Soir a été parmi les premiers à révéler cette histoire via la plume de Louis Collard et de Joël Matriche. On s'est demandé comment avait travaillé la rédaction sur ce dossier, quels sont les enseignements que l'on peut déjà en tirer. On a donc réuni Louis Collard et Béatrice Delvaux, notre éditorialiste en chef. Bonjour Béatrice.
Bonjour.
Bonjour Louis.
Bonjour Pierre.
Un point factuel avec Louis, d'abord sur l'enquête. On en est où jusqu'ici ?
Eh bien, d'abord eu 4 jours d'opérations judiciaires tambour battant à partir du vendredi 9 décembre avec une série de perquisitions, 20 au total, dont une au Parlement européen le lundi suivant qui concernait environ une dizaine de bureaux, notamment d'assistants parlementaires. Mais donc, ce qui s'est passé, c'était cette journée d'abord, cette journée folle de vendredi où il y a eu les perquisitions au domicile de Monsieur Panzeri, ancien eurodéputé italien, où on a retrouvé beaucoup d'argent liquide. L'arrestation de Monsieur Giorgi, qui est le compagnon de l'eurodéputé grec Eva Kaili, et dans la foulée, l'interpellation du père d'Eva Kaili en possession d'importantes sommes d'argent en liquide, et donc d'une perquisition, puisque c'était un flagrant délit, au domicile de Madame Kaili, où on a encore retrouvé beaucoup d'argent liquide, et donc son interpellation le jour même, ce qui a donné, je pense, une ampleur et un écho continental, si ce n'est mondial, à ce dossier. Depuis, il y a eu des mandats d'arrêt décernés contre 4 personnes. On ajoute M. Nicolo Figata-Lamenca, qui est un directeur d'association d'ONG, administrateur de plusieurs ONG. Il y a aussi eu l'interpellation et la perquisition au domicile bruxellois d'un autre, une autre personnalité italienne, Luca Visentini, qui venait d'être élu secrétaire général de la Confédération syndicale internationale, donc une espèce de coupe de dizaines et de dizaines de syndicats du monde entier, dont des syndicats belges, et donc qui représentent au total, on peut dire, plus de 200 millions de travailleurs de par le monde. Et il a été, lui, libéré sous condition et inculpé, non pas pour organisation criminelle, mais bien pour blanchiment et corruption. Il est en liberté conditionnelle en attendant la suite de l'enquête.
Il a démissionné de son poste ?
Il s'est mis en retrait de son poste. Il n'a pas encore officiellement démissionné ou été éjecté de ce poste. Là, il a fait un pas de côté.
Béatrice, juste par rapport à ces quelques éléments que Louis vient de donner, quand on a lu le déroulé des opérations policières et ces interpellations avec des valises de billets, avec des monceaux de billets de 20 euros, de billets de 50 qui sont retrouvés au domicile d'une eurodéputée, ça ressemble quand même au début d'un mauvais film d'espionnage presque.
On a l'impression qu'on a des grands acteurs corrupteurs, hein, dans le Maroc et le Qatar, et alors on a l'impression que les corrompus c'est un peu des pieds nickelés en fait, quand on les voit avec leurs valises à roulettes, leurs cadeaux qui sont quasiment sur leur cheminée, enfin j'exagère, mais du Qatar, les masses de billets de liquide, ben, beaucoup de spécialistes de ces matières aujourd'hui disent, mais bon, ils n'ont pas vécu la modernité de la corruption, ils datent du siècle dernier de la corruption. Bon, alors tout ça évidemment, ce sera intéressant de le documenter, de l'expliquer. Oui, c'est un mauvais film d'espionnage, mais enfin bon, c'est aussi la réalité, c'est ça qui est incroyable, c'est que ce qu'on croyait être réservé à des films d'espionnage, ou j'avais dit entre un Stephen King et un San Antonio, ben voilà, l'histoire va décider, et la documentation, enfin le travail fait par Louis Collard et Joël Matriche avec Christophe Clérix de CNAC, bah, documente ces éléments, apporte des éléments. Et ça, c'est par exemple dans les films d'espionnage et dans les romans, on voit pas toujours les journalistes et on voit à quel point ils ont un rôle vraiment extrêmement important. Petite précision peut-être pour ceux qui me reconnaissent sur Euronews tous les matins serrant la main d'Eva Kaili, juste quand même préciser que le mercredi avant ce fameux vendredi, nous remettions le prix du livre européen et la présidente du Parlement européen était à Malte et elle avait délégué son meilleur remplaçant qui était Eva Kaili, que nous avons découvert à côté de nous, et donc je pense que je la salue et je lui dis bonjour, bonsoir. Elle a fait un premier discours et puis elle est partie au milieu de la remise de prix et tout le monde se demande si elle avait reçu des SMS lui disant Il faut planquer l'argent. Mais ça, je ne pense pas. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, ça veut dire aussi que ça a été très, très secret aussi en Namur. C'est-à-dire qu'il y avait un très petit nombre de journalistes qui étaient au courant, parce que le mot d'ordre, c'est d'éviter d'ébruiter les informations avant qu'on puisse les publier. Une démocratie se fait de pouvoir et de contre-pouvoir. The check and balance, c'est comme ils disent aux États-Unis. Et on voit que quand les check and balances ne fonctionnent pas, qu'il y a des dérapages extrêmement dangereux pour tout le monde. On voit aux États-Unis que les contre-pouvoirs maintenant se sont mis en route par rapport à Trump. On voit qu'au Parlement wallon, il n'y a pas beaucoup de contre-pouvoirs. Bah, ils ont laissé passer des grosses factures et des gros dérapages de comportement. Eh bien, les check and balances, ici en l'occurrence, c'est les juges et les journalistes qui font le boulot que ne font pas les autres instances. Quand il y a les dysfonctionnements des autres instances, il y a ces deux métiers qui entrent en marche, et des métiers avec leur déontologie, très important, leur indépendance, c'est très important. On mesure ici toute la force, que ce soit le soir, qui soit informé, je le dis moi-même, parce que je n'ai plus de responsabilité à grande échelle, et pas un journal qui, par exemple, devrait vendre des avions à un émirat quelconque. Donc je veux dire, on n'a pas ces doubles loyautés, on a une seule loyauté par rapport à l'information, et ici ça marque toute sa force.
Avant de réexpliquer un petit peu comment est-ce qu'on a travaillé, Louis, il y a justement, Béatrice le disait, l'importance de la police, du travail de la police, l'importance du travail de la justice. On a beaucoup dit dans ces podcasts, dans nos colonnes aussi, que ce sont des services qui manquaient de financement. Là, ils ont quand même prouvé que même en manquant de financement, ils sont quand même capables d'effectuer du sacré bon boulot.
Et j'ajouterais un autre service de sécurité qu'on n'a pas encore eu le temps de mentionner ici, c'est la Sûreté de l'État, qui a eu un rôle déterminant et essentiel à l'origine de ce dossier, en association, en collaboration avec 5 autres services de renseignement européens. Ça a été d'ouvrir une enquête, mais d'abord une enquête de renseignement sur de possibles faits d'ingérence dans les affaires européennes qui se passait sur le sol bruxellois, d'où l'importance de la Sûreté de l'État, qui a mené une enquête apparemment très poussée. On comprend maintenant qu'il y avait eu des écoutes concernant M. Panzeri, donc, qui est le chef présumé de cette organisation. On sait aussi, puisqu'on l'a révélé, qu'il y avait une intrusion, une infiltration secrète fantôme à l'appartement bruxellois de ce M. Panzeri par la Sûreté de l'État. Et ça fait très roman d'espionnage, ouais. et c'est le cas.
Mais après, c'est la vérité, c'est comme ça que ça s'est passé.
Ça s'est passé comme ça. Évidemment, là aussi, il y a eu des check and balances, puisque ce genre d'intrusion dans la vie privée, qui peut paraître extrêmement violente, d'abord, ça s'est pas fait parce que, au début de l'enquête de renseignement, c'est sans doute parce qu'ils avaient déjà de très forts doutes sur le rôle de M. Panzeri pour ingérer dans les affaires européennes, et ça a été validé par des magistrats de la commission BIM. Donc BIM, c'est les initiales pour les méthodes spéciales d'enquête, et ça a été validé, il y a eu ça, et là, ils avaient déjà découvert, avant l'été dernier, tout l'argent liquide qui se trouvait au domicile de ce monsieur Panzeri, ce qui a nécessité de transmettre le dossier à la justice. Donc l'enquête s'est ouverte comme ça. Et donc oui, pour répondre à la question, on a dans notre pays des institutions de sécurité qui fonctionnent. À tout seigneur, tout honneur, les moyens de la sûreté de l'État sont renforcés sous cette législature par ce gouvernement Vivaldi. Il y avait un gros retard, il faut le dire. Hein, si on compare à des pays avec lesquels on peut se comparer, notamment les Pays-Bas, la Sûreté de l'État qui a vu ses moyens renforcés, la police judiciaire qui est toujours dans de grandes difficultés, mais qui, lorsqu'on lui transmet un dossier qui est jugé prioritaire, met les moyens à des enquêteurs de qualité qui ont fait un travail dans l'ombre pendant plusieurs semaines et plusieurs mois avant de faire cette opération assez spectaculaire et d'obtenir déjà de premiers résultats tout aussi spectaculaires. Ça ne préjuge en rien de la suite de l'enquête. On verra si ce groupe criminel présumé est plus large qu'il n'apparaît aujourd'hui ou pas. Mais en tout cas, les faits sont déjà assez évident, en tout cas pour le blanchiment, je pense que l'infraction est constituée. La corruption, ça devra encore être déterminé, mais
il y a des aveux,
plus ou moins partiels, du fait que ces personnes admettent avoir travaillé pour le compte d'une part du Maroc et d'autre part du Qatar.
On doit être étonné, justement, Béatrice, de voir des États tiers se livrer à de l'ingérence comme ça, où de nouveau, c'est une réalité qui n'appartient pas que aux films d'espionnage.
Justement, si on est étonné, c'est qu'on n'a pas compris comment fonctionnait le monde, parce que ça se passe en permanence. Alors c'est vrai que peut-être, nous, ça nous marque ici parce que c'est chez nous. En fait, c'est en Belgique, ce sont nos juges, ce sont notre sûreté de l'État, c'est dans nos journaux. Ça nous touche, ça nous concerne de plus près. Ce sont des Belges, notamment, en tout cas, il y en a un qui est cité dans le dossier. Donc c'est vrai que ça nous ramène à nous-mêmes, mais c'est en permanence comme ça. Je veux dire, quand on parlait d'influence russe sur les élections américaines, la manière dont ils ont été siphonnés les mails de Hillary Clinton à l'époque, et voilà, ça nous paraissait improbable, ça a été documenté, et puis c'est les Russes et les Américains, on se dit que c'est comme ça depuis que le monde est monde, mais c'est pas que ça. Et on rappelait dans nos colonnes ce week-end, notamment toute l'affaire Khashoggi, hein, ce journaliste saoudien qui a été tué dans une ambassade, un consulat saoudien sur le sol turc. On a interviewé quelques mois après Madame Kalmar, qui est devenue la présidente d'Amnesty, mais qui était en charge du dossier pour les Nations Unies et qui a enquêté. Elle a mis à jour, un peu comme le juge Claeys aujourd'hui dans d'autres circonstances, des éléments d'ingérence étatique et d'assassinat sur un seul étranger. Donc c'est en fait extrêmement fréquent. Et par ailleurs, les États, ils essaient d'influencer, de multiples États essaient tous d'influencer par rapport à leur propre agenda, par rapport à leurs propres intérêts. Et si on voit sur le Qatar, c'est une question surtout beaucoup d'images en fait. Et pour le Maroc, c'est une question d'intérêt particulier politique sur le Sahara occidental, et aussi d'intérêt sur les questions de pêche, etc., commerciaux. Ce qui est peut-être qui nous a le plus surpris, en fait, c'est de penser qu'eux trouvaient que c'était intéressant de corrompre le Parlement européen. Parce que pour beaucoup, on estimait que le Parlement européen, on le voit pas toujours comme un vrai pouvoir.
Comme un vrai lieu de pouvoir.
Oui, on se dit, bon, c'est une institution gentille, et on n'y voyait pas, en tout cas, ce que les Qatariens en font, et ni ce que les Marocains pouvaient en faire.
Un mot de coulisses aussi, Louis. Comment est-ce que vous avez travaillé ? C'était une semaine intense, ça on s'en doute. Comment est-ce que vous commencez à être au courant des prémices de cette histoire ? Et puis comment est-ce que vous avez travaillé avec des journalistes étrangers ? Parce qu'il y a eu énormément de coopération.
En fait, on a eu avec Joël Matriche et Christophe Clérix un premier écho de l'ouverture de cette enquête dans le courant du mois de septembre. Voilà, on reste évasif pour des raisons évidentes de protection des sources. Mais ce premier écho nous a permis de tirer le fil, de rencontrer un grand nombre d'autres sources qui nous ont confirmé l'existence de cette enquête, son périmètre, et nous de pouvoir commencer à travailler en source ouverte, mais de façon la plus discrète possible.
Ça veut dire travailler en source ouverte ?
Tout ce qui se trouve en ligne, par exemple, hein, toutes les informations en ligne, il y en a énormément, et beaucoup sont sorties aussi depuis le lancement de l'opération. C'est par exemple au Parlement européen, les commissions...
Les rapports sont publics, etc. Par contre, il faut les éplucher, il faut les lire.
Voilà, même les vidéos de ces commissions, donc on en a regardé un certain nombre. On a retrouvé des documents aussi qui liaient M. Panzer au Maroc, qui était là pas vraiment en source ouverte, mais dont on a pu se procurer. On a pu un peu constituer un peu notre dossier journalistique, très modestement. À côté, on savait évidemment que du côté policier et même de la sûreté de l'État, il y avait beaucoup plus d'éléments, mais on a pu avancer comme ça. Mais évidemment, notre responsabilité, c'était pas de faire capoter cette enquête avant qu'elle puisse passer à des opérations, on va dire, visibles. Et donc, nous avons, de façon responsable, attendu
qu'on vous donne l'autorisation de sortir l'info.
C'est même pas qu'on nous donne l'autorisation, c'est que les perquisitions soient toutes lancées, qu'il n'y ait plus personne qui puisse détruire des preuves sur les premières personnes qui étaient ciblées par ces perquisitions. Après, personne ne pouvait prévoir le déroulé de la journée de vendredi, ni même de samedi, puisque samedi soir, M. Tarabella, donc le député belge, a été lui aussi perquisitionné à son domicile à Antine. Ça, c'était pas prévu non plus, a priori, d'après nos sources, c'était pas prévu avant le lancement de l'opération de vendredi matin. Ils ont voulu vérifier sans doute des éléments concernant M. Tarabella, et ça s'est arrêté là. Il n'est pas inculpé, il n'a pas été interpellé, rien du tout.
Et ce travail avec les Italiens, avec la Repubblica
Alors ça, c'est plutôt dans une deuxième phase, parce qu'évidemment, on n'a pas collaboré avec des médias étrangers avant le lancement de l'opération. Simplement, c'est un dossier qui est très italien. La plupart des suspects sont d'origine italienne, s'expriment en italien. Donc ça intéresse beaucoup les Italiens. On est au sein d'une association de journaux, l'ENA, dont est membre la Repubblica, et donc très naturellement, la collaboration s'est faite. On a des journalistes de la Repubblica qui se sont installés à la rédaction, et donc on peut travailler avec eux, on peut collaborer avec eux. Ils ont leurs sources italiennes, avec des mœurs journalistiques différentes des nôtres. Effectivement, on voit qu'il y a pas mal de fuites d'informations intéressantes sur le dossier du côté de l'Italie.
Auxquelles vous ne vous seriez pas particulièrement attendu si on était resté juste en Belgique ?
Certainement, il aurait été plus facile pour les autorités judiciaires de contrôler les fuites d'informations si tout s'était passé en Belgique, avec nos mœurs journalistiques locales.
Les avocats belges sont particulièrement des inculpés sont
particulièrement
fâchés.
Agacés par ces fuites.
Des fuites des PV d'audition,
des mandats d'arrêt décernés contre certains d'entre eux. Et nous, au niveau du soir, on travaille de façon, on pense en tout cas, toujours déontologique, c'est-à-dire qu'on publie que des informations d'intérêt public extraites de ces documents qui peuvent fuiter. On ne veut pas non plus saboter la suite de l'enquête éventuellement, puisque cette enquête, je ne l'ai pas dit, mais elle n'en est qu'à ses débuts. Hein. Il y a des dizaines et des dizaines d'appareils, il y a des ordinateurs, des smartphones qui ont été saisis au cours des très nombreuses perquisitions réalisées ces derniers jours. Et en fait, l'analyse de ces appareils, avec l'assistance, on le sait maintenant, d'Europol, va prendre des jours, peut-être des semaines. Donc cette enquête n'en est qu'à ses débuts, même s'il y a déjà un certain nombre de personnes inculpées dans le dossier. Donc voilà, nous on continue à travailler, on collabore avec notamment La Repubblica, toujours avec CNAC qui travaille avec nous sur ce dossier depuis le départ. Mais par contre, il ne faut pas compter sur le soi et CNAC pour publier des informations qui pourraient mettre en danger et la présomption d'innocence des personnes et la suite de l'enquête.
Pour terminer, le risque, Béatrice, à la fin, c'est que ce soit les populistes qui gagnent, qui sortent vainqueurs de ce genre de séquence.
Oui, bah, c'est le risque. C'est Christophe Berti qui répète cette phrase que je me suis appropriée à deux reprises dans le journal, qui est de dire si vous ne voulez pas qu'on l'écrive, alors ne le faites pas, parce qu'il ne faut pas se tromper de. C'est pas les méchants là-dedans, c'est pas les journalistes, hein, entre guillemets, si on veut réduire l'histoire à des bons et des méchants. Et en fait, ça ne veut pas dire non plus que tout le monde politique est corruptible, corrompu. Je pense que dans toutes les organisations, que ce soit les entreprises, même des organisations non gouvernementales, enfin, il y a des risques de dérapage de comportement partout. Ça fait partie inhérente du fonctionnement d'une société, en fait.
Et parce que c'est lié à la nature humaine.
C'est un peu lié à la nature humaine. Et ce qu'on constate aussi, ce qui est intéressant, c'est que ce n'est pas nécessairement toujours ceux qui n'ont pas d'argent qui sont les plus séduits par l'argent. Donc ça, c'est une des petites leçons qu'on peut tirer provisoirement de cette histoire. Ça, c'est ce qui va être intéressant dans la suite aussi. C'est que Louis et Joël, ils documentent les faits, ils documentent une enquête. Donc on voit déjà un peu comment fonctionne une enquête. Après, il y aura aussi des histoires à raconter sur les personnages. Je pense que dans cette histoire, ben, les motivations, on sait déjà un petit peu ce monsieur Giorgi qui dit, bon, ça a l'air un peu ridicule, mais quand il dit, ah ben oui, Panzeri avait perdu son statut de député, il avait un peu des problèmes d'argent parce que sans doute il s'était créé un train de vie qu'il ne pouvait pas assumer. Mais en soi, c'est des histoires intéressantes aussi de voir les motivations. Et un personnage formidable que nous, Louis et moi, on a eu l'occasion de confesser de façon plus privée, qui est le juge Claes, qui est un personnage étonnant dans cette histoire, un personnage très particulier qui, depuis des années, a voué sa vie en fait à combattre le blanchiment, la corruption financière, la délinquance financière, et tient bon. Et je pense qu'ici, cette enquête, pour lui, c'est une autre manière de montrer la nécessité de ses moyens dans la délinquance financière. Donc le populisme, oui, bien sûr, oui. Moi, j'ai des gens autour de moi qui disent on ne votera plus, mais c'est dégoûtant, surtout que c'est arrivé en même temps que le dossier très différent du Parlement wallon, et que ça pose la question de dérapage à différents niveaux de pouvoir. Donc je pense que voilà, les hommes politiques, les femmes politiques, s'ils ne veulent pas que la démocratie en soit, ils ont un devoir de bon comportement et de respecter les gouvernances qui est intrinsèque à leur fonction. Mais les présidents en partie et les gens qui sont dans leurs organisations ont une obligation totale de les contrôler. S'il y a des règlements, on l'a vu aussi dans d'autres affaires, dans Netis, etc., à un moment donné, il y a des circonstances qui favorisent les dérapages. Et donc c'est ça que les structures politiques contre lesquelles elles doivent combattre. Et c'est pas non plus de multiplier les règles, c'est déjà de faire respecter celles qui sont déjà là et dont on voit ici qu'elles ont été bafouées. On peut ajouter 500 protections anticorruption au Parlement européen. Il y a une série de choses qui auraient dû être faites qui ne l'ont pas été. Et notamment, on a rappelé par les partis nationaux de mieux suivre l'activité de leurs députés européens qui sont souvent oubliés de tous et même souvent de leurs électeurs.
Et ce que j'ajouterais, ce qui a pu choquer pas mal l'opinion publique dans ce dossier précis du Parlement européen, c'est que les premiers suspects, que ce soit les personnes physiques ou les personnes morales, on parle notamment de cette myriade d'ONG, avaient ce discours de lutter contre l'impunité.
De faire la transparence.
De faire la transparence, de lutter contre la corruption, ça fait partie aussi là. Voilà, en fait, de lutter pour les droits humains, qui est une cause évidemment, mais ici, ce qui est un peu dégoûtant et qui peut révulser pas mal de nos lecteurs, nos auditeurs, c'est de voir qu'il y a des soupçons que c'était juste un paravent pour cacher des activités moins avouables. Et donc c'est vrai qu'il y a ce risque que ça nourrisse le populisme. On rappellera quand même que si on prend que le Parlement européen, il y a eu des cas de fraude dans d'autres groupes politiques, notamment à l'extrême droite. Il y a eu des enquêtes en cours, même si cette enquête-ci concerne précisément le groupe des sociodémocrates. On rappellera qu'ils n'ont pas la primeur des abus.
Et sur le populisme, c'est aussi l'affaire des gens. C'est-à-dire que, à ceux qui nous écoutent, je crois qu'il faut se méfier des phrases comme « il a l'air honnête » ou « il a l'air malhonnête » ou « ah bah ça, c'est des, je n'aurais jamais cru, c'était des gens bien ». En fait, c'est pas sur des jugements de valeur et des jugements extérieurs qu'on fonde des faits. Et donc, plutôt que de répandre des rumeurs, de répandre des impressions, et nous, on doit s'en méfier au premier chef, le journaliste est coupable s'il fait, il fait une faute, s'il écrit sur base d'impressions. Et donc, on doit faire très attention à ce qu'on dit ou ce qu'on pense des gens et des systèmes par ce qu'on ressent. Ben, c'est pas ce qu'on ressent qui est le meilleur guide, en tout cas. Ça, ceci l'a prouvé.
Merci beaucoup, Louis.
Merci, Pierre.
Merci beaucoup, Béatrice.
Merci, Pierre.
À propos, c'est fini pour aujourd'hui, mais on revient dès lundi pour une série d'épisodes spéciaux.
Pendant deux semaines, on vous propose de revenir sur l'actualité qui a marqué 2022 avec les experts de la rédaction.
À lundi.